France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Je dormirai en prison la tête haute, les premiers mots de Nicolas Sarkozy après sa condamnation à 5 ans ferme dans l'affaire du financement libyen. Le tribunal a décidé d'incarcérer l'ancien président d'ici quelques semaines. Nicolas Sarkozy condamné pour association de malfaiteurs mais relaxé pour les faits de corruption. Ce journal sera largement consacré à cette première historique. Un ancien président de la République bientôt derrière les barreaux. Le Danemark survolé par des drones d'origine inconnue, deuxième intrusion massive la nuit dernière, plusieurs aéroports ont dû fermer. Nous serons sur place avec Sébastien Baer. Après ce journal, notre rendez-vous consacré aux enjeux des élections municipales. Maire, pourquoi faire ? Aujourd'hui, les déserts médicaux qui concernent 30% de la population française. Cette fois, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à la prison. Lui qui avait porté un bracelet électronique pendant quelques mois après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes. Le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse en 2007. Une peine assortie d'un mandat de dépôt à effet différé, ce qui lui offre un répit de quelques semaines avant l'incarcération. On va y revenir dans un instant avec Florence Turme. Mais écoutons tout d'abord, la première réaction de l'ancien président de la République après sa condamnation.
Je demande aux Français, qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'excuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France.
Nicolas Sarkozy dans l'enceinte du Palais de Justice de Paris. Nous sommes avec Florence Turme, spécialiste des questions de justice à la rédaction de France Culture. Bonsoir Florence.
Bonsoir.
Rappelons tout d'abord que le parquet national financier avait requis 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy, mais sans mandat de dépôt. Aujourd'hui, le tribunal a délivré contre l'ancien chef de l'État un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. C'était la condition pour qu'il aille en prison, Florence.
Oui, et c'est bien ce que l'on retient de prime abord ce soir avant même les motivations de ce jugement, ce couperet qui s'est abattu sur Nicolas Sarkozy, très droit face à la présidente du tribunal. Elle évoque des faits d'une particulière gravité, de nature à altérer la confiance des citoyens, avant d'énoncer la peine retenue contre lui, 5 ans d'emprisonnement, moins que ce qu'avait requis le parquet national financier, avec un mandat de dépôt à effet différé, mais à exécution provisoire. Cela signifie que Nicolas Sarkozy ne dormira pas en prison ce soir, mais la détention est inéluctable. Le fait qu'il fasse appel, vous venez de l'entendre, n'y changera rien. C'est le principe de l'exécution provisoire. On sait déjà d'une source proche du dossier qu'il sera convoqué le 13 octobre devant le parquet national financier et devrait être incarcéré dans un délai relativement proche après cette condamnation, après cette convocation. Image forte et inédite pour un ancien président de la République. Comme tout détenu, il pourra toutefois déposer ultérieurement une demande de mise en liberté ou demander à bénéficier d'une libération conditionnelle dans la mesure où il a plus de 70 ans.
Alors, sur le fond du dossier, Florence, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. La justice lui reproche d'avoir laissé ses proches solliciter l'argent de l'ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi. En revanche, il a été relaxé pour les faits de corruption.
Oui, la présidente du tribunal a d'ailleurs commencé par prononcer plusieurs relaxes au bénéfice de Nicolas Sarkozy. Relax pour recel de détournement de fonds publics libyens, pour corruption passive, relax également pour financement illégal de campagne électorale. Une lecture différente de celle du parquet national financier qui avait dénoncé un pacte de corruption faustien avec l'un des dictateurs les plus infréquentables de ces 30 dernières années. Le tribunal a examiné avec les plus grands scrupules les éléments de preuve qui lui étaient fournis, a indiqué Nathalie Gavarino sur le même ton neutre tout au long de sa lecture, sans retenir d'ailleurs certains documents versés au dossier, ni les déclarations fluctuantes du sulfureux homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, décédé il y a 2 jours au Liban. Pour la justice, des flux d'argent sont sont effectivement partis de Libye, mais les éléments de la procédure ne démontrent pas que ces fonds soient arrivés dans les caisses de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Reste l'association de malfaiteurs, car en droit, la préparation suffit à caractériser ce délit, même si le but visé n'est pas atteint. En l'occurrence, précise le jugement, il existe un faisceau d'indices précis, graves et concordants. Nicolas Sarkozy a laissé ses proches collaborateurs solliciter les autorités libyennes afin d'obtenir des soutiens financiers et envisager des contreparties diplomatiques, économiques ou judiciaires. Ses proches collaborateurs, ce sont Claude Guéant, son ancien directeur de campagne, et Brice Hortefeux, eux aussi reconnus coupables d'association de malfaiteurs. 6 ans de prison retenus contre Claude Guéant, mais dont l'état de santé est incompatible avec une incarcération. 2 ans pour Brice Hortefeux, aménageable sous la forme d'un bracelet électronique.
Florence Thur, merci. Et le parquet national financier annonce ce soir qu'il fait également appel de ce jugement. Venons-en maintenant aux premières réactions politiques à ce séisme. À gauche, beaucoup d'ironie ce soir. Après la condamnation à 5 ans ferme de l'ancien président, il a finalement son nouveau quinquennat, Sarkozy. Voilà ce qu'écrit le porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée, Benjamin Lucas. Quant à Manon Aubry, la députée européenne LFI reprend la célèbre phrase de Nicolas Sarkozy. Vous en avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser. À droite et du côté du RN, au contraire, les mots sont durs et certains n'hésitent pas à critiquer cette décision de justice, Rosalie Lafarge.
On s'en prend principalement à la justice, à la droite de la droite. D'abord, parmi les premières réactions après la condamnation de Nicolas Sarkozy, celle de Marine Le Pen, la patronne des députés du Rassemblement National, fait le parallèle avec sa propre condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Et elle dénonce la généralisation de l'exécution provisoire. Un grand danger, dit-elle, critique des juges reprise par un de ses lieutenants à l'Assemblée, Philippe Ballard.
Il y a la loi écrite et puis il y a la façon dont on s'en sert. Force est de constater que ce soit pour Marine Le Pen, où aujourd'hui, ils ont quand même une tendance à se servir de cette exécution provisoire pour en parvenir peut-être, j'en sais rien, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais à leur fin. Ça représente un danger à la fois pour le système judiciaire, mais pour notre démocratie, parce qu'on peut se poser la question, où est la présomption d'innocence dans tout ça? Il y a une dérive très inquiétante qui s'instaure.
Jugement politique dénonce aussi le vice-président des LR, François-Xavier Bellamy. Condamnation humiliante, injuste et violente pour l'ancien trésorier de l'UMP, Daniel Fasquel. Extrêmement sévère, juge encore l'ex-patron du parti, désormais allié au RN, Éric Ciotti. Le discrédit de la classe politique par les voies judiciaires pose un vrai problème démocratique, ajoute Renaud Muselier, ancien LR devenu lui macroniste. Le numéro 1 chez les Républicains, Bruno Retailleau, se contente d'apporter son soutien et de rappeler son amitié, dans des mots assez proches de ceux de Laurent Wauquiez, chef des députés de droite. Quand un sénateur LR, Stéphane Le Rudulier, parle lui d'un tsunami de honte et demande à Emmanuel Macron de gracier l'ancien président, au nom notamment de la dignité de la fonction.
Rosalie Lafarge, arrêtons-nous à présent sur les leçons politiques de cette condamnation avec vous, Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Pour la première fois dans l'histoire de la République, Nicolas, un ancien président va donc aller en prison, comme si la justice voulait rappeler que la loi est la même pour tous.
Oui, un ancien président qui dort en prison pour un motif de droit commun, c'est une première depuis qu'il existe un président de la République, c'est-à-dire depuis Louis-Napoléon Bonaparte en 1848. Et on verra dans cette condamnation un aboutissement ou un point d'inflexion dans les affaires politico-judiciaires de la Ve République, République où la figure du chef de l'État était quasi monarchique et désormais plutôt démonétisée. Lorsque son prédécesseur, Jacques Chirac, avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis en 2011, il s'agissait d'une première pour un ancien président. Et lorsque Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme pour trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, peine effectuée sur bracelet électronique, eh bien c'était aussi une première. Le jugement d'aujourd'hui pourra faire penser au soutien de Nicolas Sarkozy que le pouvoir des juges contre les politiques est sans limite, on l'a vu avec le reportage de Rosalie Lafarge à l'instant, mais quels que soient les avis des politiques, il y a là un message qui leur est destiné, ainsi qu'aux citoyens, c'est que la justice s'impose aussi aux puissants et que ce genre d'affaires est le terreau de la perte de confiance des citoyens en l'autorité de l'État et du personnel politique. Un candidat à une élection présidentielle, fut-il déjà ministre, ne peut pas faire ce qu'il veut, il est responsable au sens judiciaire, définitivement, sans échappatoire. Tous les candidats à l'élection de 2027 l'ont certainement bien compris.
Analyse signée Nicolas Ballu. Nicolas, on vous retrouve après ce journal pour notre rendez-vous consacré au municipal. Maire, pourquoi faire ? L'inquiétude grandit au Danemark face à la répétition des vols de drones d'origine inconnue. La nuit dernière, pour la deuxième fois cette semaine, des engins non identifiés ont survolé des aéroports civils et militaires. Le ministre danois de la Défense évoque une menace systématique émanant d'un acteur professionnel. Nous sommes avec notre envoyé spécial au Danemark, Sébastien Baer. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Sébastien, vous êtes à Esbjerg, 72 000 habitants dans l'ouest du pays, l'une des villes où des drones ont été aperçus la nuit dernière.
Oui Stanislas, comme à Aalborg tout au nord, comme à Sønderborg au sud ou encore à proximité de la base aérienne de Skrydstrup, c'est au sud du Danemark, base qui abrite notamment les avions de chasse F-35. À Esbjerg, l'aéroport se trouve à une dizaine de kilomètres du centre-ville, c'est un long bâtiment blanc d'un étage et c'est là que les drones ont été aperçus la nuit dernière par des employés peu après la fermeture de l'aéroport. Il était environ 23 heures, des points lumineux dans le ciel, des engins mobiles, raconte la directrice de l'aéroport d'Esbjerg, Susan Sorensen.
C'était des mouvements dans les airs qui ne correspondaient pas à un hélicoptère ou à un avion. Les engins clignotaient, mais on ne pouvait pas distinguer leur taille ou la distance. Cela a duré plusieurs heures, ils sont partis autour de 4 heures du matin. Ça s'est produit lundi à Copenhague, alors on savait que ça pouvait arriver ici aussi.
La police d'Esbjerg a reçu des signalements par dizaines la nuit dernière, des témoins qui ont pris des photos que les enquêteurs sont en train d'analyser. Le commissaire principal, Søren Frederiksen, refuse de faire la moindre spéculation, mais les circonstances sont troublantes, dit-il.
C'est très inhabituel. On peut supposer que c'était organisé. Nous n'avons pas attrapé les drones hier pour des raisons de sécurité et parce que les conditions n'étaient pas réunies. Bien sûr, on voit ce qu'il se passe dans le monde, mais comme nous n'avons pas interpellé le pilote des drones, on ne sait pas qui est derrière tout ça. C'est trop tôt pour le dire.
La vigilance va être renforcée ce soir autour de l'aéroport avec des patrouilles supplémentaires. L'aéroport d'Esbjerg est le cinquième du pays avec 100 000 passagers par an et une cinquantaine de vols chaque semaine. En cas de nouvelle alerte, l'aéroport fermera aussitôt ses portes. Décision aujourd'hui de la direction.
Sébastien Baer en direct d'Esbjerg au Danemark. Les drones d'origine inconnue dans le ciel européen. On en reparle à 18h25 dans les questions du soir avec Quentin Laffey. La Commission européenne oppose une fin de non-recevoir à Apple, le géant à la pomme. Appelé Bruxelles à revoir son règlement sur les marchés numériques après avoir écopé d'une amende de 500 millions d'euros en avril dernier. La Commission répond à Apple par un message de fermeté qui s'adresse aussi à Donald Trump, Fabien Cazot.
Dans la foulée des droits de douane imposés par Donald Trump aux marchandises européennes, la Commission a répété plusieurs fois qu'elle comptait bien tenir bon sur ses réglementations dans le domaine du numérique, notamment celle qui a valu une amende à Apple au titre de pratiques anticoncurrentielles constatées dans son application App Store. Sans même attendre le résultat de son appel, la marque à la pomme demande aux Européens de renoncer à leur règlement. Réponse très ferme d'un porte-parole de la Commission ce midi, Thomas Régnier.
La Commission n'a absolument aucune intention d'abroger son règlement sur les marchés numériques. Les entreprises cherchent à défendre leurs profits à n'importe quel prix, mais ce n'est justement pas l'objet du règlement qui vise au contraire à donner davantage de choix aux consommateurs européens et à garantir aux entreprises une concurrence loyale.
Donald Trump avait de son côté menacé fin août les pays régulant le numérique de nouveaux droits de douane si ces régulations discriminatoires à ses yeux contre les intérêts américains étaient maintenues. Question de souveraineté, lui avait répondu du tac au tac l'Union européenne, qui tient bon jusqu'à présent face aux géants américains et chinois du secteur.
Fabien Cazot, correspondant à Bruxelles, à propos de géants chinois et américains, de Snapchat à TikTok en passant par YouTube, Discord ou encore Twitch. Les mineurs sont bien trop présents sur les plateformes en ligne, parfois bien avant l'âge réglementaire de 13 ans. Voilà ce que révèle une étude publiée aujourd'hui par l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique. Étude intitulée « Mineurs en ligne, quel risque, quelle protection ?» Elle a été menée auprès de 2000 mineurs de 11 à 17 ans. Leurs parents et des professionnels de santé ont également été interrogés, Pierre Repère.
Ce qui marque d'abord, c'est une utilisation de plus en plus précoce des réseaux sociaux. 22% des enfants vont sur une plateforme en ligne avant leurs 10 ans. L'âge moyen de première utilisation rajeunit donc 11 ans pour les vidéos, 12 pour les réseaux sociaux. C'est bien avant les 13 ans réglementaires pour ces plateformes. Sans trop de surprise donc, 6 enfants sur 10 assurent avoir déjà menti sur leur âge lors de l'inscription, et ce avec très peu de vérification par la suite. des plateformes. Globalement, selon l'ARCOM, entre 11 et 17 ans, l'utilisation des réseaux sociaux est massive. 83% des jeunes utilisent une plateforme quotidiennement. C'est d'abord le besoin d'appartenance et de lien social qui justifie cet attachement aux réseaux sociaux. Le principal risque pour les mineurs, bien souvent sous-estimé, est celui de l'hyperconnexion qui concerne aujourd'hui près de 3 jeunes sur 4. Un enfant sur 2 est également exposé à des contenus choquants. Les filles sont par ailleurs confrontées davantage au cyberharcèlement et les garçons aux arnaques ou à des défis dangereux. Les jeunes ne sont pas naïfs pour autant. Plus de 3/4 des adolescents considèrent que les réseaux sociaux les exposent à des risques graves, mais avec le sentiment que ce danger concerne plus les autres qu'eux-mêmes. Du côté des parents, 2 foyers sur 3 ont bien installé un ou plusieurs outils de contrôle parental, mais plus de la moitié des enfants les contournent. Au final, l'étude conclut que les dispositifs de protection sont insuffisants, alors même que les attentes des adolescents en la matière sont élevées. Mais alors, comment protéger les mineurs? Selon l'ARCOM, il faut s'appuyer davantage sur les parents et les accompagner, mais aussi faire de la prévention auprès des enfants, et ce, de plus en plus tôt, idéalement dès l'école primaire.
Un mot du temps, demain, un ciel toujours pluvieux sur la façade est, davantage d'éclaircies sur les autres régions. Les températures minimales iront de 4 à 9 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 13 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. Tout de suite, notre rendez-vous municipal.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
4e épisode de notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux enjeux des élections municipales de mars prochain. On s'intéresse ce soir aux déserts médicaux, un sujet qui préoccupe Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui a promis la mise en place d'un réseau de 5000 maisons France Santé d'ici 2027. En attendant, 30% de la population française vit aujourd'hui dans un désert médical. En 2024, 6 millions de Français n'avaient pas de médecin traitant. La situation est particulièrement préoccupante dans les zones rurales et périurbaines. Exemple, le département de l'Yonne, où le taux de médecins pour 100 000 habitants est 3 fois inférieur à la moyenne nationale. À Véron, près de Sens, le maire et les élus se battent pour attirer et conserver leur personnel de santé. C'est un reportage de Nicolas Ballu.
Centre de santé de Véron, bonjour.
Véron, petit bourg du Sénonais dans l'Yonne. 1980 âmes, mais 4500 patients référencés dans le centre de santé. On y vient des 30 km alentour, comme Patricia, 74 ans. Elle est venue en voiture et ce centre, c'est...
Pour moi, très important. Parce qu'à Villeneuve-sur-Yonne, il n'y a rien, il n'y a pas de docteur, il n'y a rien. Pour aller aux urgences.
Même un rendez-vous à Véron, ce n'est pas si simple.
Là, quand j'ai un zoneur en ce moment, j'ai téléphoné l'autre jour pour avoir un rendez-vous ici. Je n'ai pas pu avoir de rendez-vous. J'étais en téléconsultation en pharmacie.
Yonne est l'un des départements les plus touchés par la désertification médicale. Les généralistes, par exemple, il y en avait 129 pour 100 000 habitants il y a 10 ans, 106 aujourd'hui. Et la proportion de médecins de plus de 70 ans, négligeable en 2015, a considérablement augmenté. À Véron, le centre communal de santé existe depuis 10 ans. C'est le départ du généraliste qui a mis le projet en route, mais pas seulement, Jean-Pierre Gouillon, le maire de Véron.
Pour garder notre pharmacie et puis aider quand même un peu aussi les infirmières qu'on avait. On avait déjà 3 ou 4 infirmières, je ne me souviens plus. Et donc on voulait absolument que ça soit cohérent au niveau santé. Et ça a vraiment démarré petit et ça a monté un peu vite d'ailleurs, peut-être trop rapidement à certains moments, parce qu'après il faut retenir la barre avec le nombre de médecins et c'est pas toujours simple.
Le projet est donc monté par le maire précédent, avec l'ARS et le département. Aujourd'hui, 2 médecins généralistes sont présents 3 jours par semaine, 2 autres se relaient les lundis matin et mardi matin. Un mécano qui permet qu'un médecin soit disponible chaque jour. Ils sont tous salariés. Aspect financier et administratif, la commune prend tout en charge et perçoit le montant des consultations. Des paramédicaux sont également venus s'installer, mais l'équilibre est précaire. 2 médecins manquent actuellement à l'appel.
Il faut qu'on garde un minimum de médecins pour garder la tête au-dessus de l'eau au niveau argent. Mais par contre, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Là, on a eu une année un peu difficile. La commune a été obligée de remettre 174 000 euros.
Et malgré les atouts de Véron, Jean-Pierre Gouillon, sa première adjointe, Sylvie Bazu et Françoise Doma, la conseillère chargée du centre, ont beaucoup de mal à trouver un médecin.
On va à beaucoup de réunions, l'ARS, la CEPAM.
Et qu'est-ce qu'on vous dit ?
C'est la problématique de tout le monde.
On a mis des annonces il y a 4-5 mois. J'ai envoyé des offres d'emploi dans toutes les facultés de médecine.
Zéro réponse, voire même pas toujours très sympathique. L'un des responsables de faculté est étonné que la commune se permette d'intervenir dans le recrutement de médecins, en disant que c'était pas du tout notre domaine. On a rencontré aussi des élèves d'internat, mais qui nous ont bien fait comprendre que Oui, il était gentil, mais en gros, non.
Alors, c'est la grande question. Est-ce qu'une commune de 2000 habitants doit ça à ses habitants? Moi, je le pense. On essaye de le sauvegarder, de le faire évoluer. Les gens viennent aussi habiter à Véron. Ça rend attractif notre village aussi. Parce que quand on parle du centre de santé de Véron par rapport à toutes les communes du Tour, c'est un atout. Maintenant, bon, ben, faut le garder, il faut le faire vivre.
Dans les communes de Lyon et d'ailleurs, s'ajoute une autre difficulté, celle de la concurrence pour attirer les médecins. Dominique Chapuis, maire de Rozoy et présidente des maires ruraux de Lyon.
On est obligé de le constater, hein, surtout le département, des médecins qui vont d'une commune à l'autre, qu'on achète un petit avantage supplémentaire, un petit ceci, un petit cela, et personne ne dit rien autour de cela, et simplement dit bah, « t'es pas sympa, tu m'as piqué mon toubib ». C'est pas très cohérent dans une organisation territoriale et dans l'intérêt général. Il y a des élus qui sont pas corrects là-dessus, et il y a des médecins qui sont pas corrects là-dessus.
Une partie de la solution n'est pas toujours le recrutement d'un médecin. Sur proposition de l'Agence régionale de santé, la municipalité de Véron a recruté une infirmière à pratique avancée qui pourra exercer certaines compétences habituellement dévolues aux médecins.
Nicolas Ballu à Véron dans l'Yonne. Alors on le voit, les maires jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les déserts médicaux. Mais quels sont les outils à la disposition des élus? Élément de réponse avec le géographe Guillaume Chevillard.
Guillaume Chevillard, on l'a entendu, les communes se démènent pour faire venir des médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Quelle est leur réelle marge de manœuvre?
Alors ça va dépendre évidemment de la taille des communes ou des intercommunalités. Vous avez dans ces mesures peut-être différentes temporalités, des mesures on va dire de court ou moyen terme dont se sont saisis les élus. Ça peut être de participer par exemple à la construction de maisons de santé, cibler les internes. Et puis vous avez des mesures de plus long terme, et une qui est intéressante parce que un des problèmes des déserts médicaux, c'est que parmi les nombreuses causes, c'est que vous avez en fait un déficit ou en tout cas une sous-représentation des étudiants issus de zones rurales parmi les étudiants en médecine et donc les futurs médecins. Et plus tard, ça se traduit par moins d'installations en zone rurale. Et donc là-dessus, les élus locaux peuvent agir, mais ce sera à long terme. Donc, par exemple, vous avez des initiatives qui visent donc à s'insérer, par exemple, dans le Lot. Vous avez un lycée avec une option santé pour faire connaître les études médicales et susciter des vocations. Et puis aussi, de plus en plus, vous avez facultés qui ouvrent des premières années décentralisées dans des petites villes pour justement faciliter les études des étudiants ruraux. Donc c'est le cas par exemple cette année à Aubenas, hein, 12 000 habitants dans l'Ardèche, où vous avez 40 étudiants qui vont commencer leur première année de médecine. Donc voilà, ça peut être des exemples concrets de long terme que peuvent faire les élus locaux pour essayer d'attirer des médecins.
Tout à l'heure, vous avez cité les ARS, les agences régionales de santé. Les maires que j'ai rencontrés se plaignent beaucoup de leur rigidité.
Ce qui peut être, par exemple, reproché, alors pas forcément qu'aux ARS, mais ça va être sur ce sujet des déserts médicaux, ça va être, par exemple, quand elles travaillent les ARS à la mise en œuvre de ce qu'on appelle le zonage médecin, qui en fait cible les zones les plus problématiques pour qu'il y ait des aides à l'installation, ben, il peut y avoir très vite sur le terrain, au moment où est fait le diagnostic, hein, par exemple, là, il va y avoir des nouveaux zonages qui vont être faits en 2025. Seulement, c'est souvent fait avec les données les plus récentes dont on dispose pour les ARS. Donc, c'est l'année d'avant ou celle encore d'avant. Donc, il peut y avoir des fois un décalage entre le diagnostic qui est fait et la réalité sur le terrain de dégradation de l'offre de soins qui peut aller très vite.
Autre institution qui est parfois très critiquée, c'est l'ordre des médecins. Est-ce qu'il ne faut pas que cet ordre des médecins change d'attitude, notamment par rapport à la régulation?
C'est une idée qui progresse, qui avance. Concrètement, l'offre de médecins généralistes diminue dans tous les territoires, y compris les mieux dotés, et se pose la question de réguler, c'est-à-dire est-ce qu'il faut réguler maintenant, avant que les effectifs progressent de nouveau, donc d'ici 5 ans, ou est-ce qu'il faut attendre de voir si des mesures supplémentaires, complémentaires qui ont été déployées vont fournir aussi leurs effets, ou si d'autres mesures pourraient être proposées et être efficaces.
Il y a des alternatives aux médecins, ça peut être la télémédecine, ça peut être aussi le recrutement d'infirmières à pratiques avancées. Est-ce que c'est essentiel ou est-ce que, selon vous, c'est accessoire ?
Il faut s'organiser différemment, et ça passe par ce que vous avez décrit, donc des dispositifs innovants de télémédecine, et puis revoir les frontières et les pratiques des autres professionnels de santé. C'est pas accessoire, pour moi c'est vraiment complémentaire des mesures qui sont réalisées pour faire en sorte que les médecins soient mieux répartis sur le territoire national et qu'il y en ait donc davantage dans les déserts médicaux. Et donc, très concrètement, tout ce qui est fait pour, par exemple, élargir les compétences des infirmiers en pratique avancée ou des pharmaciens. Donc, par exemple, les pharmaciens peuvent vacciner, les infirmières en pratique avancée peuvent renouveler certains certificats médicaux. C'est autant de choses que n'ont plus à faire les médecins généralistes, médecins traitants et qui les soulagent en activité. Donc, quand ce cadre est organisé comme c'est prévu, c'est tout à fait des mesures pertinentes et complémentaires pour justement soulager les médecins généralistes dont on manque et dont on va continuer de manquer.
Le géographe Guillaume Chevillard répondait à Nicolas Ballu. Maire, pourquoi faire ? Le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de France Culture sur les municipales tous les jeudis à 18h15. Rendez-vous à retrouver aussi sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.